Émission On en jase, 13h35, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, réagissez avec nous par texto 418-971-1021. Écoutez-nous via l'application Boulevard 102.1 sur App Store et Google Play Store. On est sur twitch.tv/BLVD/FM et on est disponible sur la web radio BLVD.FM. Pascal CV, ça brasse dans le domaine médical. On va en parler justement avec Lambert Drainville dans quelques instants. Mais une chose est sûre, ici même, à Charlebourg, on pourrait perdre une clinique très importante.
Enfin, on va la perdre. Assurément, on doit la relocaliser et ça fait énormément de bruit depuis ce matin. J'ose croire que là, il n'y a pas de parole politique parce que c'est sorti dans les médias puis les gens s'inquiètent. Si c'est ça, ben au moins, on a une prise de parole du premier ministre François Legault là-dessus. Il a été talonné par l'opposition libérale et on a promis de trouver un autre endroit pour relocaliser la clinique d'obstétrique et de gynécologie de Québec. On a annoncé sa fermeture là, pour le 31 mars prochain. C'est un énorme centre d'obstétrique et de gynécologie. C'est de la cité, là, si vous le connaissez ici à Québec. On suivait 1500 grossesses par année. Et là, on est forcé de quitter le local. Et on l'occupe depuis 15 ans en raison d'un projet de construction. Là, on doit le quitter. Donc, on a été contraint d'annoncer la fermeture. Et ça fait un an et demi qu'on est dans les négociations avec le CHU de Québec. Il faut savoir qu'il y a un dénoncement du financement octroyé par le gouvernement. Ça ne suffisait plus depuis plusieurs années. Même que vous les connaissez, les Trudel, qui travaillent à revitaliser le secteur, ont eu des conversations avec la clinique en disant « Nous autres, on va aller voir ce qu'on peut faire au niveau des baux. On va essayer de baisser le bail. On va essayer de... » Puis ils l'ont dit eux-mêmes, là, on a eu une extrêmement bonne collaboration de la part des Trudel. Mais malgré tout, avec le financement qu'on a, on est sous-financé. On n'est pas capable, malgré qu'un entrepreneur privé souhaite amuser les fonds nécessaires pour y rester, on n'est pas capable d'y rester. Donc là, exactement, ça crée un genre de vent de panique, on s'entend. Et on n'a pas indiqué encore s'il y a un endroit précis, tout ça, qui avait déjà été localisé à cet effet-là. Mais on a vraiment dit qu'on n'allait pas laisser les femmes être laissées pour compte de cette mauvaise gestion financière-là.
William Trudel sera en entrevue demain matin avec nous dans Marceau le matin aux alentours de 7h30. Ne manquez pas cette entrevue. On s'en va rejoindre immédiatement l'ambassade de Drainville qui a parlé justement avec plusieurs gens qui font partie du cabinet de la CAQ. Lambert, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Lambert, comment on explique le tout là, au niveau de la CAQ? Parce que on s'entend, moi et toi, on défendait beaucoup le gouvernement. On trouvait que les médecins devraient aller s'asseoir à la table des négociations, mais là... Quelle loi matraque! J'ai de la misère à protéger le gouvernement avec ça. Moi, là.
Oui, ben on l'avait dit à peu près 2 semaines, les médecins ne gagneraient pas. Ils gagneraient pas à ce niveau-là. S'ils ne faisaient pas de concessions, ils n'étaient pas prêts à regarder ne serait-ce que le concept d'indicateur de performance et de changer le mode de rémunération des médecins. Et bien, honnêtement, ben là, ils se retrouvent un peu les culottes baissées avec une loi spéciale à travers la gorge. Et là, ils ne sont pas contents. Ils disent qu'ils veulent quitter. Il y a des médecins qui appliquent pour des permis de pratique en Ontario et au Nouveau-Brunswick. T'as même le premier ministre de l'Ontario tantôt qui a dit
oui.
Mon sel, 1-800-DOG-FORD. Je suis pas sûr que François
on va prendre soin de vous. Ouais, Doug, il fait un petit peu trop de vagues peut-être ces temps-ci avec Mark Carney et là, François Legault.
Ouais, Doug Ford, c'est mine de rien, tu regardes les sondages de popularité au Canada, je pense que c'est un des premiers ministres dans le haut de la liste là, qui est très, très apprécié par sa gang. Fait que lui, c'est...
Hey, je fais une parenthèse, il va-tu aller remplacer Pierre Poilievre?
Je penserais pas. On est loin de ça. Au contraire, même les rapprochements entre le Parti libéral du Canada et M. Ford... se sont beaucoup accentués là, dans les derniers mois, depuis l'élection. Mais pour revenir aux médecins, écoute, encore une fois, comme on s'est parlé souvent, là, au-delà de l'objectif, qui est un objectif, tu sais, que tout le monde va s'entendre là-dessus, là, d'abord de changer le mode de rémunération. Ça faisait longtemps que le gouvernement voulait faire ça. Je pense que le gouvernement a raison de dire que s'il fallait attendre d'avoir l'accord des syndicats de médecins pour changer le mode de rémunération, on ne le changera jamais. Mais au-delà de l'objectif, encore une fois, d'augmenter l'accès à tous les Québécois à une équipe médicale d'ici 2027, ça aussi, tout le monde est d'accord avec ça, c'est la façon. Là, tu adoptes une loi en plein milieu de la nuit, sous bâillon, puis tu es pris un petit peu à rétro-pédaler pour essayer de communiquer au fond qu'est-ce que ça va changer pour les gens, qu'est-ce que ça va changer pour les médecins. Alors que c'est tout quelque chose qui devrait se faire en amont, là, tu sais. Puis moi, je m'en suis rendu compte, écoute, en leur parlant au cabinet, en leur demandant des questions sur ce qu'on entend présentement. Puis il y a tellement de choses qui m'ont été clarifiées que je pensais pas.
C'est-tu ça qui nous manque, Lambert? C'est-tu vraiment ça qui nous manque, la clarification? Parce que le gouvernement martèle que, attendez, les médecins, là, vous pensez que c'est atroce comme projet de loi, ouais. Mais c'est pas si mal, on va avoir le temps de plus vous l'expliquer. Ou encore, les médecins, ils lisent le projet de loi et ont raison, ou encore, on peut comprendre un genre de, pas panique collective, là, mais mécontentement collectif.
Oui, première affaire, les salaires. T'sais, on lisait les articles, il y a des médecins qui vont perdre 50, 40 % de leur salaire. Pensez-vous vraiment là, que le gouvernement serait allé jusque-là? C'est pas vrai qu'il y a des médecins qui vont perdre jusqu'à 50 % de leur salaire. Les indicateurs de performance qui sont imposés par le gouvernement aux médecins avec la nouvelle loi, ça représente un maximum de 10 % de leur salaire.
Oui, mais à l'heure actuelle, avec les taux horaires, par exemple, du gouvernement, c'est là qu'on en perd plus du côté des médecins. Là. À tout le moins, c'est leur argumentaire.
Ben, les taux horaires, ils faisaient même pas partie du calcul. Là. Ils sont rajoutés là, maintenant. Ils deviennent une composante du calcul dans le salaire des médecins. Avant, c'était essentiellement payé à l'acte, là, à part quelques exceptions. Fait qu'on rajoute, au contraire, un taux horaire pour les médecins qui vont prendre le temps avec leurs patients. Fait que, tu sais, on entend les syndicats dire que c'est de la médecine fast-food. Ça, c'est un spin qui a beaucoup pris. On va faire du gros volume, puis on va passer un patient après l'autre, puis on ne prendra pas le temps de s'asseoir puis de prendre le temps qu'il faut avec les patients. C'est le contraire de ce que la loi va faire. L'enjeu premier qu'on avait présentement, c'est que tu avais des médecins qui billent, puis qui billent, puis qui billent, parce que c'est à l'acte. Fait que tu débarques dans le bureau du médecin, tu dis « Écoute, j'ai un problème au niveau de mes poumons, au niveau de ma gorge, et je me suis pété à la cheville. » Mais là, ils vont dire « Ah, ben là, pour ta cheville, il va falloir que tu reprennes un nouveau rendez-vous, puis tu repasses. » Tu sais, ça, c'est l'enjeu qu'on avait, et c'est ça que le gouvernement veut changer. Alors, que le nouveau modèle, il va privilégier la prise en charge collective, le travail d'équipe entre les médecins, puis comme je te disais, il va rajouter un tarif horaire qui va reconnaître justement le temps passé avec les personnes qui en ont le plus besoin. Fait que tu sais, ça, c'est un bel exemple de comme ce sera pas... L'objectif du projet de loi, c'est justement de mettre fin à ce phénomène-là du un bobo, un rendez-vous. Ouais. Je t'ai parlé du salaire. Tu sais, regarde, les indicateurs de performance aussi, là, tu sais, moi, j'étais comme tabarouette, voir les gens en moins de 90 minutes à l'urgence, alors que la moyenne nationale est présentement au-dessus de 5 heures. J'étais comme, il me semble, c'est assez haut, là, comme demande.
Mais, hein?
Mais c'est ça, je leur ai parlé, puis tu sais, ils m'ont dit, écoute, présentement, on est à 44 % des patients qui, quand ils vont à l'urgence, sont vus en 90 minutes
okay.
ou moins. Post-triage. Là, le premier palier que les médecins vont devoir atteindre au niveau de l'attente à l'urgence, c'est 50 %. Là, on est à 44 %. Fait qu'on aurait un 6 % de différence que les médecins vont devoir aller chercher.
Bien, tu sais, je reviens avec la question de Pascal. La problématique du gouvernement, c'est d'avoir fait une loi spéciale rapidement sous bâillon au lieu de faire un projet de loi en bonne et due forme, d'aller en commission parlementaire puis d'avoir le temps d'expliquer tout ça. Est-ce qu'on se trompe, moi, Pascal?
Non, absolument pas. Puis c'est l'essentiel de mon point. C'est de dire qu'il aurait dû faire un meilleur travail en amont pour expliquer ça, là, son poignet pour rembobiner le tape puis essayer de défaire les peurs des gens qui sont accentuées, effectivement,
évidemment, le par les créations de médecins. Remettre le dentifrice dans le tube.
Puis il y a beaucoup de médecins qui parlent.
Vas-y, Pascal.
Il y a beaucoup de médecins qui parlent. Puis j'ai comme posé 5 questions à 5 générations différentes de médecins qui étaient les mêmes puis qui n'étaient pas ensemble. Donc, ils répondaient vraiment de façon unique de leur côté. Puis ce qui ressort beaucoup, il y en a qui ont fait des calculs par rapport à leur salaire. Il y en a qui baissaient à 55 000 par année avec bon, des déductions et tout ça. Puis on voit comme il y a comme dans plusieurs métiers, il y a plusieurs façons de faire. Tu as des médecins qui sont vraiment là pour l'argent, tu en as qui sont là par vocation. Il y en a qui... Donc, ceux qui sont là par vocation, c'est incroyable comment eux parlent fort en ce moment, habituellement quand ils sont dans majorité silencieuse. Puis, il y a un spothead aussi très intéressant où il y a plein de médecins qui commencent à être un peu plus vocaux sur la façon dont ils font les choses puis comment ça les affecte, qui est un peu saisissant. Fait que si ça, mettons, ce qui évoque vient en fait de factuel, Donc, leurs calculs, mettons, sont bons par rapport à la loi.
Non, c'est ça qu'il faut. Là, tout le monde fait ses calculs de son bord. Écoute, là, je sais pas
c'est si peut-être ça l'erreur,
la
en fait.
Mathématique, là, pour calculer, là, tu sais, tout le monde fait ses affaires de son bord. Il n'y a aucune personne qui est capable présentement, avec certitude, de savoir quel pourcentage de son salaire va baisser. Puis quand je dis que le gouvernement aurait dû préparer quelque chose, aurait pu mettre en place une plateforme sur le site web, un site web où ce que les médecins auraient pu aller, inscrire leur nombre d'heures qu'ils ont fait l'an passé, le nombre de patients qu'ils ont vus, etc.
Ça aurait peut-être apaisé.
Ben oui, puis là, il aurait pu avoir une réponse claire, à peu près une marge sur, bon, ben combien. Puis la vérité, c'est qu'il y a des médecins qui vont perdre effectivement 2, 3, 4, 5, 6 % du salaire. L'autre vérité, c'est que l'enveloppe pour la rémunération des médecins est gelée jusqu'en 2028 à 9 milliards. Fait que c'est sûr que dans une perspective de pouvoir d'achat, considérant que leur salaire va rester gelé jusqu'en 2028, mais que le coût de la vie va continuer d'augmenter, oui, les médecins vont perdre au niveau aussi de leur pouvoir d'achat. Mais il y en a qui vont gagner. Ceux qui ont suffisamment de patients par année, qui travaillent plus que 200-220 jours par année, qui prennent en charge des populations qui sont déjà vulnérables, ils vont gagner de l'argent avec ce projet de loi-là. Ceux qui vont perdre, bien, c'est les médecins, comme je te disais, qui billent, puis qui billent, puis qui billent, qui n'ont pas nécessairement de patients, de beaucoup de patients inscrits, mais qui billent des actes pour avoir des salaires, des fois, qui se rapprochent du million par année. C'est ceux-là qui vont perdre. Fait que c'est sûr que c'est un gros changement, puis avec tout gros changement, ça vient avec ça accroche, puis ça vient avec une adaptation qui n'est pas nécessairement facile quand tu essaies de faire des gros changements comme ça. Puis c'est pas la première fois qu'un gouvernement passe par loi spéciale. Moi, je pense, comme je te dis, qu'il y aurait eu le temps de mieux faire les choses.
Pourquoi ils l'ont pas fait?
Parce que c'est fait, ça a été fait dans le passé.
De la part d'un gouvernement qui ça fait plusieurs années là, qui est au pouvoir, la part de François Legault, qui a quand même un CV politique qui est existant, qui a traversé des crises, qui voulait refaire une beauté, tiens, à la santé, chose que bien des partis politiques ont tenté, puis qui savaient que c'était extrêmement difficile à chaque fois que tu envoies un ministre de la Santé faire un genre de travail de construction, tiens, sur la santé, que ce soit Gaétan Barrette, ça a été difficile. C'est assurément un projet qui est constamment attendu avec un 2 par 4, prêt à fesser en arrière de la tête d'un ministre jusqu'à maintenant. Christian Dubé avait été épargné des mauvaises langues. On faisait confiance à Christian Dubé pour une raison qui était quand même spectaculaire, de voir un ministre de la Santé qui était épargné, de se faire fesser dessus à chaque jour. Il y avait un espoir, en fait, de faire avancer cette façon de faire en santé pour la suite des choses. Mais là, vient qu'on sort à la va-vite avec un projet de loi comme celui-là. Je comprends pas la stratégie politique derrière. Officiellement, ils ont scrappé le genre de statu quo qu'on avait au départ face à Christian Dubé et les changements qu'on voulait faire, non? On s'est pas tiré dans le pied?
Ben non, au contraire. Eux autres, c'est sûr que ça fait partie de leur stratégie. Comme on parlait, quand ils ont défait leur discours d'ouverture, ils ont identifié certains adversaires. On parlait des syndicats, incluant évidemment les syndicats de médecins. Ils ont identifié les islamistes radicaux. Ils ont identifié tout ce qui est loi et l'ordre. Tu sais, ironiquement, d'ailleurs, ils coupent des budgets à la Sûreté du Québec.
Ouais, c'est ça.
Mais je parle pas de refaire la santé, puis de faire une refonte de la santé, pas du tout ça. N'importe quel gouvernement en place va devoir se mettre les deux mains là-dedans.
Ils le font tous, hein? Il n'y a pas de recette magique.
Mais
là,
pourquoi avoir sorti le projet de loi quand on dit qu'il faut l'expliquer puis qu'il est mal compris en ce moment aussi vite, sensible?
Bien, parce que tu as des étudiants qui, présentement, sont en train de manquer le bateau pour la suite de leur parcours académique, puis de pouvoir, après ça, rentrer dans le réseau pour porter un coup de main aux différentes cliniques, aux différents hôpitaux.
Mais les dommages collatéraux actuels ne sont pas plus lourds que ceux, par exemple, des étudiants qui auraient pu venir si on avait pris un petit peu plus de temps? C'est une question qu'on se pose collectivement.
Mais non, il y a 1000 médecins. Là. On parle de 1000 médecins là, qui sont sur le bord de ne pas pouvoir continuer leur stage, de ne pas pouvoir aller faire leur externat, puis de après ça, pouvoir pratiquer. C'est vraiment, vraiment beaucoup de monde. Ça aurait fait énormément mal. Puis l'autre élément, Pascal, c'est que les élections sont en octobre. Puis si tu veux avoir le projet de loi rentre en fonction le 1er janvier, puis si tu veux avoir des indicateurs déjà qui vont dans le bon sens rendus au mois d'octobre, bien, le plus vite que tu le fais, le plus tôt tu peux espérer avoir des résultats.
Ta première raison, je comprends un peu plus pourquoi il y allait là. La deuxième, je la trouve plate. Elle était électoraliste pour moi. Puis c'est sûr que c'est comme ça que ça fonctionne la politique, mais je veux dire, là, en ce moment, c'est quand même un gros branle-bas de combat.
Oui, elle est électoraliste, mais en même temps, moi, ce que je trouve aussi électoraliste, c'est les autres gouvernements, par exemple le Parti libéral, qui ont essayé de pas... qui disent qu'ils scraperaient la loi... Alors qu'eux-mêmes ont déjà essayé, à travers, tu parlais de Gaétan Barrette, de changer la façon dont les médecins sont payés au Québec. Puis là, quand un gouvernement, finalement, dit, bien, regarde, nous autres, au Yob, si on attend à ce que les syndicats soient d'accord, les syndicats de médecins, bien, c'est pas compliqué. On va attendre à vitam aeternam. Il n'y en aura jamais de réforme du mode de rémunération si on attend que les syndicats sont d'accord. Fait que nous autres, on va de l'avant pour le meilleur et pour le pire. Puis malheureusement, encore une fois, c'est une question de pédagogie. Puis là, il y a tellement d'éléments qui sont pas clairs dans le projet de loi. Un projet de loi qui va plus loin encore que ça. À quoi on s'attendait, que là, ils sont pognés à rétro-pédaler, ils sont pognés à rectifier plusieurs éléments. On a parlé du salaire, on a parlé des indicateurs de performance, on a parlé des impacts que ça va avoir sur les femmes, les pénalités aussi. Tu sais, moi, tu lis le projet de loi puis tu dis tabarouette, le ministre va mettre en place des surveillants dans toutes les régions, dans tous les milieux de soins pour surveiller la cadence des médecins.
Les délateurs!
Il va avoir des délateurs. Ça, il me semble ça va loin pas mal, là, oui. La gang. Là.
En effet, ça va très, très, très loin, ce projet de loi-là. Lambert, il faut qu'on termine cette excellente chronique, encore une fois, de ta part, parce qu'on doit terminer dans le positif avec nos vœux de Noël pour le Centre pédiatrique du CHU de Québec. Je te remercie infiniment. Vendredi, Farnell n'est pas là, fait qu'on se fait un petit rendez-vous, un petit trio, moi, toi, Pascal, CV, à midi, vendredi, pour la deuxième chronique de la semaine de Lambert Drainville.
Je peux juste ben oui, vas-y. Affaire, là, je parlais de quoi je parlais déjà?
Hey, tu parlais de plein d'affaires qui vont trop loin, comme la délation.
De la surveillance, tout ça. Oui. Mais là, ils m'ont dit, c'est un levier que le ministre se donne, au fond. Ouais. Ce ne sera pas comme ça partout. Ils disent, si on a une situation dans un hôpital où tu as les médecins qui commencent à faire une mutinerie, à se mettre ensemble puis à vouloir ralentir le réseau pour faire pression sur le gouvernement, c'est là que le gouvernement peut agir. Mais ce ne sera pas un système mis en place partout dans toutes les régions en tout temps. Là. C'est vraiment à la discrétion du ministre. Puis comme le ministre l'a dit aujourd'hui, présentement, il n'y en aura pas de pénalité, il n'y en aura pas de répercussions. Puis il n'y en aura pas de surveillance pour l'instant. C'est des moyens que le ministre s'est donné.
Yes! Merci beaucoup, Lambert Drainville. On se reparle vendredi.
Salut!
Salut! À vendredi. Pascal CV, avant de parler des vœux de Noël, comment qu'on fait pour appeler, avoir notre publicité, contribuer au Centre pédiatrique de Québec, du CHU de Québec. Écoute bien ça.
The 19th in Yamamoto. There's a fly ball to deep left center field. Headed back there. It is gone! Brad Jr. gives the Jays the lead.
C'est 2-2 dans la série, Pascal.
Yes.
Les Jays ont gagné 6-2 hier. Vlad Guerrero est devenu le joueur avec le plus grand nombre de coups sûrs dans l'histoire des Jays en série et avec le plus grand nombre de coups de circuit avec son 7e hier. 5e match ce soir entre les Jays et les Dodgers. Et la série va se transporter à Toronto vendredi soir. Les matchs sont toujours à 20h.
20h. Alors, 20h ce soir, 20h vendredi.
Tous les matchs de la Série mondiale sont à 20h. Pascal, est-ce que tu peux nous rappeler à nos entrepreneurs qui veulent contribuer justement aux soins palliatifs pour les enfants du Centre Mère Enfant Soleil du CHU de Québec? Comment qu'on fait pour participer à cette belle journée des vœux de Noël, là, de la communication?
Avec bonheur au 418-682-8420 et les numéros sont sur nos pages Facebook. Vous pouvez les trouver sur nos pages Facebook aussi, en solo, là, en fait personnel. Puis s'il y a quoi que ce soit, allez sur Twitch, il y a des bannières. Donc le numéro, pas besoin de le retenir nécessairement, mais ce que vous avez à retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a un pourcentage de rabais très élevé, autour de 500-600 $ pour 30 messages publicitaires sur nos ondes à Boulevard 102.1. C'est le meilleur prix de l'année. Ce n'est qu'aujourd'hui que vous pouvez réserver votre campagne. Là, on ne parle pas de choisir votre message et tout. Non, non. Faites juste réserver votre campagne aujourd'hui parce qu'il y a une partie de toutes les ventes de cette journée-là qui vont être remises au Centre Mère-Enfant Soleil du CHU de Québec. Ça veut dire qu'on vient en aide aux enfants malades et leurs familles sur tout ce que la RAMQ ne couvre pas. T'as un enfant malade, puis tu dis crime à l'hôpital, c'est froid, il y a un lit pour mon enfant, je suis sur la chaise à côté, je suis en train de le perdre, littéralement, là, on est en soins palliatifs. Puis t'entends des gens arriver en disant, ben nous, on a réussi à acheter des lits extensibles humano. Mais ça, c'est avec, entre autres, le 685 000 $ que Leclerc Communication a remis à l'équipe de la docteure Julie Laflamme et Maryse Frenette au courant des dernières années, grâce à votre implication.
C'est extraordinaire.
Ça veut dire que des parents vont dormir collés avec leurs enfants pour les derniers jours de leur vie, parce qui n'ont pas le choix d'être à l'hôpital, mais on essaie de faire ça comme s'ils étaient à la maison. Donc, être bienveillant, être collé, être ensemble, c'est les dernières minutes avec leurs enfants. Avec ces sous-là aussi, on a des soins de massothérapie. Ça veut dire que si votre enfant ou l'enfant souffre de son corps, il ne va pas en souffrir. Cette fois-ci, il va apprendre en ayant plaisir que quelqu'un abrège justement les endroits où ça lui fait mal par un soin de massothérapie, l'art-thérapie, des ateliers de sculpture, photographie professionnelle, parce que des enfants qui se demandent s'ils vont être oubliés pour la suite, des trousses de confort, les cérémonies commémoratives qui sont super importantes aussi. Puis le projet de cette année, c'est la bucket list. Donc, en plus de ça, cette année, il y a une partie de l'argent qui sera recueillie pendant la journée de vœux de Noël qui va servir à réaliser les rêves de la bucket list des enfants qui sont suivis aux soins palliatifs pédiatriques. Entre autres, il y en a un rêve qu'on a réalisé avec,
oui, avec Jaylan,
qu'on vous a présenté en début d'émission. C'était de faire une exposition avec tous ses dessins de robots. Il adore dessiner. Donc, vous servez à ce qui est le plus humain possible sur la chaîne humaine là, ouais, de notre région de Québec, là. Ben, c'est à ça que vous contribuez. Vous êtes en entreprise, vous êtes un employé d'un entrepreneur, puis vous dites, OK, moi, j'écoute Boulevard, mais là, c'est aujourd'hui qu'on contribue. C'est rien. Vous avez un budget marketing, c'est sûr, pour vous annoncer annuellement.
Clairement.
Prenez quelques centaines de dollars pour appeler au 88-682-8080.
C'est jamais aussi bien dit, Pascal CV, Julie d'ailleurs, qui nous mentionne. C'est très touchant, votre pub des vœux de Noël. Écoutez Gravel dans le retour, qui s'en vient l'instant même avec Denis Audrey et Véro. On continue cette belle journée festive pour le Claire Communication au profit du Centre Mère-Enfant Soleil du CHU de Québec. Nous, on se reparle demain midi. Bonne fin de journée, guys!
Salut!